Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Et j'aimerais vous parler des dons de l'esprit. Vous voulez bien ? Et c'est tout à fait de chez nous ça. Hein, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, hein. Peut-être les autres en parlent plus dans d'autres communautés que nous en parlons, mais c'est bien parce que c'est le souffle de Dieu, c'est la vie de l'esprit, c'est l'équipement pour le service, et nous avons vraiment besoin d'être rafraîchis. Fraîches ondées tombent sur nous, hein. On le chante, hein, ce cantique. Alors, on va commencer par une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Alors, d'abord, chapitre 1er, livre des Actes des Apôtres, au verset 4, à ce moment-là, Jésus est ressuscité, verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, les apôtres, hein, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 8 maintenant. Mais vous recevrez une puissance, vous recevrez de la puissance, la personne divine puissante. On est d'accord, hein? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur de nous avoir donné l'équipement parce que aller par toute la terre pour annoncer le message de l'Évangile sans avoir les outils, sans avoir d'abord l'autorisation et la capacité, qu'est-ce que l'on peut faire? Oh, on peut faire beaucoup de choses. Les hommes se sont bien passés pendant des siècles et des siècles du Saint-Esprit. Hein. C'était tout simplement une démarche religieuse, moraliste. Mais c'est pas ça. La question que nous allons voir aujourd'hui, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et ça, ça change tout. C'est un message de libération, c'est un message de hardiesse, c'est un message de conquête, c'est un message qui fait que, eh bien, nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur Dieu, et non pas sur nos expériences théologiques, connaissances et tout ce que vous voulez. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. D'abord, j'aimerais introduire ce sujet pour que ça soit bien clair pour chacun d'entre nous. Ce que les dons spirituels ne sont pas. On va commencer par là. Après, on vous expliquera ce qu'ils sont. Hein? Mais on va d'abord commencer à déblayer un petit peu. Ce qu'ils ne sont pas, les dons spirituels. Premièrement, ce n'est pas une aptitude humaine. Ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de l'homme. Le plus consacré, le plus dévot, le plus disposé ou disponible, c'est pas ça. Il peut y avoir des qualités humaines. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Les dons de l'esprit, ce qu'ils ne sont pas, c'est que ce sont des dons surnaturels. J'ai décomposé, hein, sur, au-dessus, de la nature. Des dons surnaturels, découlant de la grâce de Dieu. Alors on les appelle des dons, on les appelle des charismes, charisma, en grec, et nous voyons que ils ne procèdent pas, puisqu'on est en train de dire ce qu'ils ne sont pas, ils ne procèdent pas du mérite. C'est-à-dire de dire, eh bien, Seigneur, tu me donnes tel ou tel don parce que, tu sais, je suis un bon chrétien, hein. Tu dois être content de moi. Ça a des relents un peu du pharisien dans le temple, ça, hein. Hein? Ce n'est pas le mérite. Et il nous est dit d'aspirer au don spirituel, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas en se présentant devant Dieu en disant « Seigneur, c'est moi, je suis tous les dimanches au culte. Le mercredi soir, je suis aux réunions de prière. Le vendredi, je suis à la réunion d'évangélisation. Je distribue des prospectus, des journaux, etc., etc. Je le mérite bien. Hein. » Je fais les gestes, hein, si vous permettez. Comme ça, ça illustre un petit peu. Donc, ce n'est pas le mérite. Il faut que nous nous mettions ça dans la tête. Ce n'est pas charnel. C'est précisément le contraire. Ce n'est pas non plus le résultat d'une spiritualité supérieure, en pensant que parce que je vais jeûner, parce que je vais faire ceci, je vais faire cela, etc., etc., que je m'élève au-dessus de mes frères et de mes sœurs en pensant que je les regarde de bas en disant « Oh, ils sont encore en arrière, hein ?» Et moi, comprenez, je suis moi. Hein ? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une supériorité. Dieu ne donne pas les dons spirituels et ne vous baptise pas du Saint-Esprit parce que vous êtes finalement, eh bien là, au-dessus des autres. Ce n'est pas, eh bien là, une spiritualité supérieure. Ce n'est pas un problème aussi de sanctification. Parce qu'on a entendu des gens qui possédaient, qui avaient les dons spirituels, et quand on regardait dans leur vie, il manquait beaucoup de fruits, hein. Ça peut choquer, hein, ce que je suis en train de dire. Mais maintenant, j'ai rien à perdre. Mais je dis quand même la vérité. Bon, pas ma vérité à moi, mais la vérité du Seigneur. Celle biblique, parce qu'on va bien cadrer les choses. Alors, quelquefois, on se dit, mais voilà, celui-ci, bah, il va certainement recevoir ceci, cela, parce que je peux vous dire que il en met un coup, hein, pour essayer de se dégager un peu de tous les carcans, de la condition humaine, etc. Donc, ni spiritualité supérieure, ni sanctification qui serait finalement, vous savez, Jésus nous le rappelle, quand tu pries, quand tu jeûnes, ne sonne pas de la trompette devant toi pour que tout le monde le sache. Hein. Je le dis au passage. Ce ne sont pas des dons mystiques. Ouais, c'est ce que c'est le mysticisme. C'est une position du chrétien qui est éthéré. Il est entre ciel et terre, il ne sait pas de quel côté il va aller. Hein. Ce n'est pas mystique. On n'est pas des mystiques. On est des hommes et des femmes réalistes qui ont les pieds sur terre, mais le cœur au ciel. Ça, c'est important de le dire. Hein. Parce que vous savez, les mystiques, ils emmènent un peu de travers. Hein. C'est toujours avec des visions, avec ceci et cela. On va en parler justement des visions. Donc, c'est pas mystique. Et puis, ils ne proviennent pas donc de notre ego, moi, vous comprenez. Et on peut dire qu'il y a les dons spirituels d'un côté, on va voir justement ce qu'ils sont. Dans, eh bien là, 1 Corinthiens chapitre 12, on va faire l'énoncé comme ça, je veux dire les choses au fur et à mesure. Et puis, on va pouvoir étayer nos propos avec les textes bibliques. 1 Corinthiens chapitre 12 et le chapitre 12. Et nous allons donc... Alors, que je prenne la bonne page. Voilà. Écoutez bien. Il y a diversité de dons, chapitre 12 et verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et voilà. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit, avec un grand E, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit, esprit de Dieu, opère toutes choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut, à chacun d'entre nous, ici, ailleurs, dans d'autres communautés, comme il le veut. Donc ça n'a rien à voir avec « Seigneur, tu fais ceci avec moi parce que je suis ceci et je suis cela ». Ça, ce sont les dons que Paul énonce, les dons spirituels, c'est clair, net et précis. Et il y a l'équipement par le service que nous allons lire maintenant, où nous retrouvons des dons spirituels, mais nous trouvons aussi des fonctions, l'équipement pour le service, dans Romains chapitre 12, et au verset 6. Complémentarité de ce que je viens de dire. Puisque nous avons des dons différents, et heureusement, selon la grâce, c'est une grâce, c'est pas un mérite, qui nous a été accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Entendez par là, dans d'autres traductions, selon l'analogie de la foi, en fonction de votre foi. Et cette foi, elle surmonte notre peur. Elle surmonte nos craintes, quelquefois, pour ouvrir la bouche publiquement, pour donner une prophétie. Selon l'analogie de votre foi. Si vous avez un problème pour prophétiser, eh bien, à ce moment-là, demandez à Dieu qu'il augmente votre foi pour avoir l'audace de dire les choses. Mais selon la pensée du Seigneur, hein, pour régler des comptes et une prophétie que vous avez eue 8 jours avant, hein. Non, c'est immédiat, c'est dans l'instant T. Alors, on continue. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Corinthiens, les dons de l'esprit, et là ce sont l'équipement, c'est ce qui accompagne le service. Le but, on a parlé des dons, ce qu'ils ne sont pas. Avant de dire ce qu'ils sont, je voudrais donner le but des dons spirituels. D'abord, les dons spirituels sont faits pour la délivrance des détresses, entre autres, mais je les ai mis en premier. Délivrance des détresses. Et nous pouvons être chrétiens et connaître aussi des moments difficiles, des détresses, des perplexités, des interrogations, enfin toutes sortes de choses qui sont tout à fait dans le commun de la vie, de notre existence. Et combien de fois nous avons, et nous en reviendrons quand nous ferons l'énoncé, la définition de chaque don, quelquefois certains, nous-mêmes, nous sommes venus, après une semaine épouvantable, malade et troublée, et là alors que nous disions et nous hésitions en disant « j'y vais ou j'y vais pas au culte », et là il y a un don spirituel qui arrive, et la personne qui va donner ce don spirituel, la prophétie, ne sait rien du tout. Parce que si vous le savez, vaut mieux se taire. Hein. Alors c'est vraiment péché contre Dieu. Hein. Bah, on va pas bricoler les choses. Pardonnez mon langage clair, net et précis. Mais, et là vous entendez une parole. Parce que Dieu connaît toutes choses, il sait par où nous passons. Il connaît nos larmes, il connaît nos souffrances, il connaît nos questionnements, nos perplexités, etc. Et là vous avez une parole qui correspond véritablement à ce que vous avez vécu, ou ce que vous ressentez, ou peut-être même ce que vous entendez que Dieu vous parle. Et c'est extraordinaire. Vous êtes rentré en pleurant, et vous repartez avec la joie. C'est formidable. C'est extraordinaire. Donc, délivrance des détresses. Touchant la maladie. Quelquefois, il y a eu des gens qui sont gardés, peut-être, qui ont gardé en secret des maladies, là, au fond de... Et puis, voilà. C'est pas pour que les autres le sachent, mais c'est pour nous donner le réconfort dont nous avons besoin. Les infirmités. Physique et morale. Et puis, le but des dons spirituels, c'est confirmer le message évangélique. Oui, Dieu a dit, prêchez la parole à toutes les nations de la terre. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que vous avez prêché d'abord. Et c'est une confirmation du message évangélique. Dans certains dons, il y a également... Les dons spirituels ont pour but de détruire les œuvres du diable. On le verra dans le détail tout à l'heure. Détruire les œuvres du diable. Vous savez, il y a un ennemi pensant et intelligent qui travaille en douce, hein, toujours dans l'anonymat, et quelquefois qui est en train de tisser autour de nos vies, où notre vie est mise à prix. Hein, où là, à travers des choses, des traquenards, toutes sortes de choses, et là, c'est dévoilé par le discernement des esprits. On en parlera tout à l'heure. Et là, il y a Dieu qui peut le faire, hein. Et même pas celui qui donne la prophétie, ne le sait pas non plus, hein, naturellement. C'est également pour prouver la résurrection de Jésus. Eh oui! Parce que si on a affaire à un dieu mort, ça sert à quoi? On a inventé quelque chose. On a mis sur place une religion, une croyance. Mais, ce qui est important, c'est que ça prouve que Jésus est ressuscité et qu'il est au ciel, mais il est au milieu des hommes par le Saint-Esprit. Je vous enverrai une puissance. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Confirmation de la résurrection de Jésus. C'est pour amener les hommes à l'écoute de l'évangile, à les interpeller. Il y a des hommes et des femmes qui, quelquefois, dans le courant de nos réunions, viennent pour faire plaisir, pour répondre à une invitation, etc. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Hein? Bon, c'est comme ça. Puis d'un seul coup, il y a une parole qui surgit de la prédication parce qu'elle est animée derrière par une conduite de l'esprit. Et là, ils se réveillent. Ça les saisit. Et là, ils se disent, mais ce message, c'est un message de Dieu. J'ignorais que finalement j'avais besoin de ceci, j'avais besoin de cela. Donc, ça amène à l'écoute de l'évangile, des dons spirituels. C'est pour convaincre les incrédules, ceux qui disent, Dieu n'existe pas. Il y en a qui sont ressortis en disant, maintenant je sais que Dieu existe. Et ça les a tellement bousculés que finalement, eh bien là, ils sont plus incrédules. Hein. Bah, c'était un petit peu celui qui passait par le doute, c'était, Thomas. Hein? Ah, je ne croirais pas si on me fait mon monde, si on me dit pas ceci et cela. Le jour où il s'est fait, entre guillemets, interpellé par Jésus, il est tombé devant Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, ne sois pas incrédule, mais crois. Les dons spirituels nous convainquent donc de la vérité. Et c'est pour donner courage au peuple de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons besoin de vivre les dons spirituels dans nos églises. Oui, nous sommes des églises charismatiques où nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, comme dans le livre des Actes des Apôtres nous est démontré, et puis comme dans d'autres passages, d'autres textes. Et je pense que cela, c'est une grâce. Et ne pensons pas que le temps est révolu, c'est encore pour nous aujourd'hui. Oui, il y a des églises, voire même de Pentecôte, qui... à cause des excès, je vous en parlerai tout à l'heure des excès. Les excès, quelquefois, sont discréditants et cassent le témoignage de l'évangile. Parce qu'on fait tout et n'importe quoi, on dit tout et n'importe quoi. Alors, il appartient naturellement au conducteur spirituel de l'Église de veiller à ça. Hein. Enfin, j'essaie de le faire, moi, en tous les cas. Et de ne pas, de rester dans le cadre de ce qui nous est enseigné dans la Bible. C'est-à-dire que ça doit être toujours très équilibré. Pour que l'authenticité soit reconnue des dons spirituels, il faut qu'il y ait un équilibre. Et pas passer dans un sens, passer dans un autre. Et nous avons, à travers les lettres de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, suffisamment d'éléments pour savoir conduire, finalement, les dons spirituels. Et il y a eu tellement d'excès, tellement de fantaisies, tellement d'élucubrations, de gesticulations et tout ce que vous voulez, que quelque part les gens ils disent ne me parlez plus des dons spirituels, et ils ont raison. Ouais, moi je souscris. Ils ont raison parce qu'ils en ont tellement entendu. C'est une manipulation finalement des autres. Et ça, c'est inadmissible. Alors c'est pour encourager le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant on va voir ce qu'ils sont. Alors, ce qu'ils sont. Pneumatica, c'est le nom grec. Oui. Ça veut dire souffle. Alors, ne pas confondre la pneumologie, là vous la trouvez à l'hôpital, et la pneumatologie qui est la doctrine ou l'enseignement du Saint-Esprit. Alors, si vous allez à l'hôpital en disant « je vais chercher le service de pneumatologie », ils vont dire « attendez, vous vous trompez là hein. ». Parce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire souffle. En hébreu, « rua ». Rua. Voilà, souffle. Alors, c'est un don de grâce, on y revient, ce que nous avons dit au départ. Vous avez remarqué avec moi, nous avons lu ce passage, diversité mais une même source. Il ne peut pas y avoir une source autre que celle que la source divine. Dieu distribue ces choses, mais toujours le même, finalement le même esprit. Alors vous allez me dire que dans le monde dans lequel nous on est, les hommes ont été très inventifs pour trouver des sources dans l'intellectualisme, dans la philosophie, dans toutes sortes de dimensions cérébrales et intellectuelles humaines, ça c'est une source. Ça n'a rien à voir. Hein. Et puis il y a une autre source dont nous parlerons tout à l'heure également, c'est que ça peut être une source maligne, parce que vous savez, dans le monde de l'occultisme, de la sorcellerie, de tous ces gens qui trafiquent avec le monde des ténèbres, c'est spirituel, mais c'est pas spirituel divin. C'est un spirituel malin, occulte, dangereux, ténébreux et mortifère. On peut le dire de cette manière. Alors, diversité, mais un même esprit. manifestation donc de l'Esprit de Dieu. D'abord, ils sont donnés à ceux qui y aspirent. Pour nos frères et sœurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, demandez à Dieu, il va vous le donner. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne pourrais pas vous donner une autre recette, il n'y a pas de méthode. Tu crois, tu reçois. C'est simple, non? Oui, c'est simple. Voilà. Alors, ils sont donnés à ceux qui aspirent. Aspirer à être rempli de l'Esprit de Dieu, de la personne de Dieu, de la personne de Christ, tout simplement. Et ça doit être exercé dans l'ordre et la bienséance. On en reparlera. L'ordre et la bienséance. Imaginez-vous, Paul a dû écrire aux Corinthiens que dans l'église de Corinthe, il avait constaté que dans les cultes, il se passait des drôles de choses. Premièrement, pour le repas de Sainte-Seine, il y en a qui arrivaient, ils étaient vraiment pas très, comment dois-je dire? Ils étaient joyeux. Mais pas de la même joie dont vous pensez. Et il est obligé de leur dire, écoutez, avant de venir au culte, hein, arrêtez de sonner de la trompette. Ou de la bouteille. Et c'est vrai que c'était scandaleux, hein. Il y en a d'autres qui arrivaient dans d'autres états, bon, ça c'est autre chose. Mais par exemple, dans les dons spirituels, Paul est obligé de leur dire, écoutez, hein, véritablement, moi je constate que avec les dons spirituels, vous avez tous les dons, dira-t-il aux Corinthiens. Mais ils avaient tous les dons, mais ils avaient vraiment peu de fruits, hein. Parce qu'ils faisaient peu de cas de, finalement, peut-être les frères qui étaient à côté d'eux et qui étaient dans des conditions peut-être plus difficiles. Et ils donnaient des dons spirituels, ça fusait de tous les côtés, c'était, vous permettez que je dise le mot, le foutoir. Ouais, c'était le bazar. Et est-ce que véritablement c'est le témoignage d'une église vis-à-vis de tous les gens qui sont autour de nous, quand ils mettent les pieds dans une église et que ça s'en va dans tous les sens, que l'on marche au plafond, qu'on roule sous les chaises? Parce que là, il y a des dons spirituels qui s'en vont dans tous les sens. Ça vous fait sourire, hein? Mais malheureusement, on pourrait pleurer aussi de certaines conditions où on ne tient pas compte de la bienséance et de l'ordre que Dieu a donné. On est d'accord? Ça s'est bien passé entre nous, non, jusqu'ici, hein? Non, ça va quand même. Vous dites peut-être certains, pourvu qu'ils en aillent, hein? Pour reprendre nos bonnes habitudes, nanana. Et je pense que il faut garder cette ligne et Dieu sera glorifié à travers son peuple et son église. Ah, ça c'est important. Vous y veillerez, hein? Ah ouais, c'est vrai. Faudra y veiller, hein? Et c'est conforme, les dons spirituels doivent être conformes. Et notre référence, c'est pas parce que bon, un a des, je ne sais pas ce qu'il pense, en conformité à l'ordre et à l'enseignement biblique qui nous est donné, hein. Si nous avons une référence, faut regarder dans la Bible. C'est pas parce que monsieur le pasteur ou monsieur le je ne sais qui, un théologien évangélique a dit qu'il y avait ceci et cela. Peu importe. S'il dit la vérité, on le suit, on le reconnaît. Mais si c'est en si c'est pas en conformité avec la parole de Dieu, niet, hein. Vous voyez, je parle russe maintenant. La vérité, l'enseignement biblique, et qui contribue à une chose tellement importante, les dons spirituels, ce qu'ils sont, et ça doit être le principe, le dénominateur commun pour chaque chrétien, c'est doit contribuer à l'édification de l'Église et non pas à sa destruction. Ou à sa confusion, ou tout simplement, eh bien, là, une atteinte à la conscience des autres. Oh, il a donné un don spirituel, je ne sais plus quoi penser, ça me rend malade, etc. Mais ça ne doit pas nous rendre malade, ça doit nous donner la vie. Et ça doit nous guérir. On en a entendu des dons spirituels, hein. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, je peux vous dire que quelquefois, on en a entendu, hein. Ça se passe bien à Saint-Nazaire, hein. Mais on a vu autre chose, hein. Ou quelquefois, il a fallu remettre un peu les pendules à l'heure, hein. Eh oui. Mais c'est comme ça, c'est tout simplement. Écoutez, l'édification du corps de Christ, ça, c'est essentiel. Est-ce que ça édifie mon frère et ma sœur? Est-ce que ça lui fait du bien? Non pas pour le bien que... Non, mais est-ce que, véritablement, ça lui fait le bien de Dieu? Le bien de Dieu. Et vous savez, on a eu beaucoup plus de cas positifs, hein. Faut quand même le dire, parce que bon, je suis en train de marquer un peu en marge, mais on a eu quelquefois des frères ou des sœurs qui sont venus, qui ont reçu d'authentiques dons spirituels et qui nous ont raconté un peu leur histoire. On s'est dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Tu sais tout, tu connais tout. C'est formidable, franchement, hein. Et c'est ce qui doit se passer d'ailleurs, hein. l'édification du corps de Christ et à la gloire de Dieu. Si c'est pour se glorifier soi-même, c'est pour dire, vous avez vu comment je suis? Moi, je suis prophète. Hein. Moi, je suis quelqu'un... si c'est pour notre glorification, eh bien, vraiment, c'est voler à Dieu ce qui lui revient. Et là, on devient des voleurs. Non seulement on est un menteur, mais on devient un voleur aussi. On prend ce qui revient à Dieu, sa gloire, pour se l'attribuer à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Rien du tout. Et l'apôtre Paul dira, mais considérez-vous comme des serviteurs inutiles quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Ça rabaisse un peu le niveau, hein. Naturellement. Alors, il y a trois catégories. C'est un peu schématique ce matin, mais c'est bien. Il y a les dons vocaux que vous avez entendus, entre autres. Parler en langue et interprétation. Ou prophétie directe. Les dons vocaux, ce que l'on entend. Il y a les dons d'inspiration. Les dons vocaux sont des dons d'inspiration. Et il y a également les dons de révélation. Inspiration, les dons vocaux. Révélation, ce que l'on peut classer, comme nous allons le voir tout à l'heure, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Révélation, inspiration. D'accord? C'est bien clair, hein? Et ils traduisent l'omniscience de Dieu. Je traduis. Ils traduisent tout simplement la faculté divine que Dieu sait tout. Et c'est inspiré pour être donné aux autres pour son édification. Et c'est aussi révélé. Donc, ça, c'est une première catégorie. Et il y a les dons de puissance. Alors, tout le monde les demande, cela. Hein. Ah ouais, Seigneur, tu me donnes, finalement, ce don de pouvoir faire des miracles. Vous vous rendez compte, hein, les gens, on va les éblouir. Hein. Comme Simon le magicien. Mais lui, ça venait pas du Seigneur. Hein. Peut venir, ça venait d'une autre origine. Hein. Les dons de puissance. Et là, c'est l'omnipuissance de Dieu qui est mise en évidence. C'est pas la puissance de l'homme. C'est pas la puissance du serviteur de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Omni, puissance. C'est-à-dire, omni, c'est tout. Hein. Il peut tout. Il sait tout. Il connaît tout. Et il est partout. Omniprésence. Donc, ce sont dans ce cas de dons de puissance, ils sont audibles et visibles. D'une manière ou d'une autre, les uns et les autres. Les charismes ou les dons de l'esprit sont au nombre de 9. Vous n'avez pas eu le temps de les compter tout à l'heure quand on a lu le texte. Hein. 3 inspiration, 3 révélation et 3 de puissance. Ça fait 9. Hein. Est-ce que vous avez fait le rapport qu'il y a entre les fruits de l'esprit? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 aussi. Alors on en reparlera. Il doit y avoir une alliance, il doit y avoir une équivalence, un parallèle très très étroit, je dirais même parfait, entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit viennent, je le crois, je ne veux pas trop resserrer la réflexion, mais ils nous viennent lorsque nous naissons de nouveau à ce qu'on appelle la régénération première. Voilà. Quelqu'un qui naît de nouveau, il est quand même rempli du Saint-Esprit, hein. C'est évident. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un développement particulier à partir du moment où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Alors, il y a normalement eh bien, une alliance concomitante entre les fruits et les dons. Vous recherchez des dons spirituels, demandez d'avoir les fruits en même temps, hein, et qu'ils soient à égalité. Ça nous permettra de tenir l'équilibre et de tenir la route, si on peut dire cela. Certains dons sont spectaculaires. Ah, et c'est ça ce qu'on aime, hein. Montre-nous un miracle, diront les gens du temps, là, les pharisiens et tout ça, les docteurs de la... Montre-nous un miracle et nous croirons en toi. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Pas de miracle. Eh, parce que c'est pas le miracle qui donne la foi, c'est la foi qui produit le miracle. Faut pas renverser, faut pas mettre la charrue devant les bœufs, hein, naturellement. Donc il y en a certains qui sont spectaculaires. Quand vous voyez, par exemple, l'eau changer en vin. Quand vous voyez un mort ressuscité comme Lazare, hein, quand vous voyez la tempête qui se calme, bah, je sais pas, hein, c'est, bah, nous n'avons jamais vu des choses pareilles. Ça, c'est sûr. Et puis, il y en a d'autres, hein, dans les dons spirituels, qui se manifestent dans le secret, dans notre secret à nous. dans notre fort intérieur, au tréfonds de notre âme. Et nous le savons. Les autres ne le savent pas. Et il se manifeste dans le secret. Il se manifeste dans le silence. On va vous donner des explications. Mais ils sont aussi importants que les dons transcendants qui font du bruit, qui sont visibles. Hein, ils sont aussi, c'est la même chose en quelque sorte. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et à partir de ce que vous entendez, nous y prendrons garde maintenant. Hein. J'ai renversé un petit peu le verset là. Nous y prendrons garde. Alors on va commencer, puisque on va continuer plutôt la définition de chaque don. Il y a ce que l'on appelle la parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse ? La parole de sagesse, c'est parce que j'étais à l'école de théologie, parce que je suis allé à la fac de théo, ou parce que j'ai appris, j'ai étudié, j'ai lu 1001 livres, etc., et que j'ai acquis cette sagesse. Ça n'a rien à voir. Cette sagesse, elle est surnaturelle. Et vous savez qu'elle était donnée à des gens qui étaient les apôtres et qui ont été reconnus comme n'ayant pas trop d'instruction. Alors, sagesse, hein? Donc, c'est une sagesse surnaturelle qui procède de la sagesse divine. Elle est communiquée et elle révèle cette sagesse-là. Elle révèle les pensées, la volonté de Dieu. Vous qui vous posez la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Ses plans et ses intentions. Elle guide vers les choses spirituelles, non pas vers le bas, mais vers le haut. Pour un choix, pour une décision importante dans notre vie, ou un règlement de problèmes. Et là, nous avons besoin, eh bien, que Dieu nous donne la manifestation de la sagesse, une parole de sagesse. Vous avez le cas, parce que je vais vous donner des exemples, au moins un exemple à chaque fois, le cas de Paul, quand il est sur le navire et qu'il y a la tempête. Ça fait 3 semaines qu'ils sont ballottés là, sur la Méditerranée, et tout le monde pense qu'ils vont tous mourir. Et à un moment donné, Paul va prendre la parole, il dira « un ange du Seigneur ». Alors, ils étaient alliés avec une vision, naturellement. Mais c'est une parole de sagesse. « Un ange du Seigneur m'a révélé que nous serons sauvés, que nous sortirons du péril, il n'y aura que le désastre, enfin, la perte du navire. » Et il dira « Dieu, et ça, la parole de sagesse, Dieu m'a parlé et m'a montré qu'il en sera comme il m'a été dit. » Parole de sagesse. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. Et ça appuyait sa foi pour savoir envers et contre tout, alors que tout le monde était en train de se lamenter parce qu'ils allaient tous mourir de par le fond. Ça montrait que finalement, eh bien, la foi de ces hommes, sur la foi de Paul, devant son assurance, devant son calme, devant cette force qui est émanée de lui, eh bien, il y avait un espoir de salut et qu'il ne mourrait pas au fond de la mer. Parole de sagesse. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein. Alors, dans les exemples que j'ai voulu vous donner, je pourrais en trouver plein dans l'Ancien Testament, mais comme on parle d'aujourd'hui, j'ai voulu chercher dans le Nouveau Testament. C'est beaucoup plus actuel, naturellement. Voilà. Règlement de problèmes, décision et choix. C'est ce qui nous arrive très souvent dans des... Bon, pas pour choisir la couleur de notre cravate, hein, faut pas déranger le Seigneur pour ça, mais pour des choses qui sont tellement importantes dans notre vie, nous traversons parfois des moments de grande perplexité, et on se dit « Mais Seigneur, donne-moi ta pensée !» J'ai un choix à faire tellement important, donne-moi. Si vous en faites un sujet de prière et que vous attendez à Dieu, à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, mais particulièrement à travers une parole de sagesse, il peut vous parler. Vous savez, dans la vie de l'Église, on s'est trouvé confronté, nous, en tant que conducteurs spirituels, à des situations qui étaient vraiment pas faciles. Et comment prendre les choses? Surtout quand il s'agit des questions humaines. Comment prendre les choses? Alors, on peut toujours les prendre avec autorité, voire autoritarisme, en disant, voilà, c'est comme ça. Non, pas comme ça avec le Seigneur. Dieu crée des circonstances et des situations et il nous conduit finalement comme il faut. Et quand finalement les choses s'avèrent vraies, on se dit « Mais Seigneur, j'y avais pas pensé. » Et la façon dont tu m'as conduit, mais c'est extraordinaire. J'y avais pas pensé. Mais c'est le mieux. Parce que vous savez, ça ne fait de mal à personne. Ça ne détruit personne, au contraire. Ça édifie. Parole de sagesse. Souviendrez du voyage de Paul. Parole de connaissance maintenant. C'est connaître quelque chose, c'est recevoir donc de la part de Dieu une parole de connaissance, c'est connaître quelque chose de caché dans le présent, maintenant. Une pensée secrète d'un cœur, Ça fait partie de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. L'existence d'une chose, une personne, un fait qu'on ne peut savoir autrement que par l'intervention divine. Alors la parole de sagesse, la parole de connaissance passe, moi je l'ai constaté, souvent à travers la prédication. Parce que moi quand je viens, ou les frères qui prêchent, on n'est pas en train de cogiter pour essayer de déceler tous les mystères qu'il peut y avoir dans l'Église, hein, tout ça. Non, quelquefois à travers une parole, dont non prévu, non pensé, quelqu'un va recevoir, eh bien, la réponse à ce qu'il attend. Ça se fait à travers les dons d'inspiration, naturellement. Alors, parole de connaissance. Un exemple. C'est une révélation de l'instant T. Moi, il y a toujours une chose qui m'a toujours étonné, et j'ai entendu ça et ça me... Il y a des gens qui disent, bah oui, vous savez, moi, lundi dernier, j'ai eu une pensée pour dimanche prochain. Bah pourquoi pas dans 6 mois, hein. Bah marquez-le sur un papier parce que vous risquez d'oublier, hein. Moi, je dis que c'est un non-sens. Non. La parole ou une prophétie d'une manière ou d'une autre, c'est dans l'instant T. On est venu, on ne sait rien, et là, on va être inspiré par le Seigneur pour donner la parole qui convient à quelqu'un ou à quelqu'une. Alors, un exemple. Eh bien, c'est le cas dans le livre des Actes de Pierre et d'Ananias et Saphira. Eh, monsieur Ananias, il s'était dit, on va faire finalement en sorte que, ben, quand ils vont rentrer là, ces deux-là, parce que moi, je crois qu'ils sont en train de nous troubler, ils sont en train de nous voler, etc. On va les... Non. C'est une parole qui est venue directement dans le cœur de Pierre à l'instant que finalement ils avaient affaire à des escrocs. Des gens qui se disaient chrétiens, ah, on va en reparler, des gens qui se disaient chrétiens et qui quelque part voulaient tromper, eh bien là, l'église du Seigneur. Et quand Ananias est arrivé en disant, tu as menti au Saint-Esprit. Alors le pauvre Ananias, il a dû certainement avoir les cheveux qui se dressaient sur la tête en disant, mais comment le sait-il? Parce que c'est Dieu qui lui avait révélé. Et puis quand sa femme est arrivée un peu plus tard, eh bien il a fait la même chose et elle a répondu la même chose, dans le même mensonge que son mari. Oh, ça leur a pas porté chance, hein. Ils ont eu une attaque cardiaque et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de défibrillateur. Ils n'ont pas pu les réanimer. Voilà. Non, mais enfin, pour ceux qui connaissent le texte. Hein. Ouais, dans l'instant T. Le discernement des esprits maintenant. Sagesse, connaissance, discernement des esprits. Les trois dons de révélation, hein, on est d'accord. Le discernement des esprits, combien important dans notre monde d'aujourd'hui, hein, c'est une aptitude surnaturelle et ponctuelle, je dis bien ponctuelle, à discerner ce qui vient de l'homme, ce qui vient du malin et ce qui vient du divin, ce qui vient de la chair humaine, ce qui vient de l'adversaire, le diable, et de ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'origine et la nature. Et là, nous avons un exemple patent, c'est celui de Paul et de la pythonisse. Parce que, à pas trop y regarder cette femme, elle quand même, elle rendait un témoignage extraordinaire à Paul et Silas. Hein. Écoutez ces hommes, ils vous annoncent la voie du salut. Imaginez-vous qu'ici, quelqu'un arrive et vienne en disant, voilà, il vous adresse la voie, enfin le prédicateur vous adresse le message de Dieu, on se dit, bah oui, c'est pas mal, hein. Comme si on n'y avait pas pensé avant. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'inspiration de cette femme, c'était maléfique. C'était une inspiration diabolique pour confondre Paul. Et Paul, hein, au bout d'un certain temps, elle a suivi, elle criait derrière Paul en disant « Il vous annonce la voie du salut ». Et Paul a été irrité. Il se disait « Ça vient pas de Dieu ». Cette irritation qu'il avait dans son cœur était le signe déjà précurseur que finalement c'était quelque chose de mauvais. Et c'est ce qui s'est passé finalement. À un moment donné, il s'est retourné et puis sans préavis, hein, il lui a dit « Sors de cette femme ». Et là, il a pas parlé à cette femme, il a parlé au démon. Parce que le démon est capable de dire des vérités. Il est capable de vous envoyer 99% de vérité avec 1% de poison mortel. C'est pour ça qu'il faut discerner aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, dans la fin des temps, on a plutôt intérêt, hein. On a plutôt intérêt, donc la pythonisse, discernement des esprits. Le don de foi maintenant, ce sont les dons de puissance, hein. Don de foi, guérison et miracle. Le don de foi, c'est la capacité surnaturelle de croire sans douter. Ah, ça c'est bien, hein. C'est-à-dire d'avoir une certitude profonde à l'intérieur de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la foi, le fruit de l'esprit, et ça n'a rien à voir avec la foi qui sauve. Vous suivez? C'est bon. La foi qui sauve. Je suis sauvé par la foi. C'est la foi qui me sauve. La foi fruit de l'esprit, c'est parce que bon, il y a là une disposition qui nous est donnée à travers le fruit. Mais là, c'est la foi surnaturelle. Capacité donc de croire sans douter qu'une chose va arriver. Alors, c'est intéressant. Une chose va se produire alors que les circonstances sont absolument contraires, humainement parlant. Bah, c'est Daniel dans la fosse aux lions. C'est ses camarades, vous savez, qui sont dans la fournaise ardente, etc. Mais moi, j'ai trouvé l'exemple peut-être dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul, lorsqu'il débarque après le naufrage à Malte, il ramasse des broussailles pour faire un feu parce qu'ils ont peur, ils ont froid, pardon. Et là, il y a une vipère qui s'attache à sa main. Et je ne sais pas si vous aimez ce genre de petite bête, mais c'est quand même assez impressionnant hein, quand vous l'avez au bout du doigt et puis que il vous invoque, il vous infiltre le instille le velin. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à ce moment-là? Il a secoué comme ça, elle est tombée dans le feu, la vipère. Mais lui, il était en voie de mourir. Parce que bon, les gens qui étaient autour, ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Alors ils l'ont attendu, il nous est dit, ils l'ont attendu plusieurs heures. Et Paul, dans cette affaire, est resté tranquille. Il est resté comme normalement et il y a une neutralisation finalement du venin. C'est pour ça qu'il y a le don de foi, c'est un don non pas actif, c'est un don passif, mais c'est un don puissant. Il vous laisse en paix, il vous garde dans la paix et la sérénité en disant, en sachant que Dieu, eh bien, délivre. Et combien de témoignages nous avons entendus de nos frères qui sont sur les champs missionnaires en Afrique et autre part, qui ont été mordus par certaines bêtes, et qui là, finalement, eh bien là, on saisit. Ils saisiront des serpents et ça leur fera pas de mal, ça leur fera aucun mal, dans le livre de Matthieu. Oui. Alors, c'est pas la peine de mettre la main dans un panier de serpents pour voir comment ça fait, hein. Je vous le déconseille, hein. Mais quand c'est accidentel, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et Paul, dans cette affaire, est resté comme si rien ne s'était passé. Le don de foi, c'est un don, eh bien là, qui permet, et c'est silencieux, c'est une paix intérieure. On a fait déjà l'expérience dans ce domaine. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a ensuite le don des guérisons. Alors, don des guérisons, vous en avez plein les pages du Nouveau Testament et particulièrement dans les évangiles. C'est la communication de puissance par le Saint-Esprit afin de prier pour ou avec quelqu'un de malade pour son relèvement. C'est pas celui qui prie qui guérit. Il y a des gens qui viennent à l'imposition des mains par superstition. Comme si c'était le prédicateur qui avait finalement le pouvoir de guérir. C'est le nom de Jésus saisi par la foi. Ouais. Et vous savez que nos églises ont été bâties depuis le réveil des années début du siècle dernier. On s'aperçoit qu'il y a eu des choses extraordinaires. Non pas des dizaines de guérisons, des centaines et des milliers de guérisons dans notre pays de France. Le souffle de l'esprit du mouvement de Pentecôte. Et c'est Jésus qui guérit. C'est pas le prédicateur. C'est pas le pasteur, c'est pas l'orateur, même s'il parle bien. C'est pas lui, il n'a rien, lui. Il a simplement l'association de la foi avec la vôtre, si vous êtes malade, pour vous imposer les mains, et à ce moment-là, Dieu fait l'œuvre. Parce qu'il y en a qui se sont quand même donné la réputation d'être, excusez-moi, mais des guérisseurs. On n'est pas des guérisseurs. On est des serviteurs de Jésus-Christ. Qui apportons la parole, pour que la parole suscite la foi et que les malades soient guéris. C'est Paul, avec le père de Publius, dans l'île de Malte encore, il nous est dit que cet homme était âgé, qu'il avait la dysenterie. Paul lui a imposé les mains au nom de Jésus, il a été guéri immédiatement. Don des guérisons. Et il y a également le don des miracles. Ça, c'est intéressant. C'est une opération surnaturelle, voire prodigieuse, contraire aux lois naturelles qui s'exercent sur la nature et la matière. Il ne s'agit pas du corps, mais la nature et la matière. Parfois suite à la prédication de l'évangile pour confirmer la parole qui était finalement annoncée. Ce sont les disciples dans la barque au moment de la tempête. C'est pas un miracle? Quand vous êtes en train de chavirer au milieu du lac, vous allez passer par le fond, que les éléments sont déchaînés, que vous êtes perdus et vous dites « ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire !» Et que là, à un moment donné, Jésus montant dans la barque avec ses disciples, « n'ayez pas peur, c'est moi. » Ils l'ont reconnu à sa voix, ils ont fait confiance, et là, il paraît que la barque est arrivée de l'autre bord, ils sont arrivés sains et saufs, dans la tempête. Maîtrise des éléments, maîtrise de la nature. Regardez par exemple les lois quand Jésus a changé l'eau en vin. Eh oui, quand il a fait tant et tant d'autres miracles, les 5 poissons, les 5 pains et les 3 poissons, vous vous rendez compte? Et il y avait de quoi manger, hein? C'est, je le rappelle, ça s'exerce sur la nature et la matière. Dieu qui a fait les lois de la matière et de la nature, il est capable de modifier à un moment, eh bien, ces lois pour produire le miracle. Don du miracle. On arrive au don d'inspiration et je finis. Don d'inspiration, don de prophétie. Alors, une chose importante que je voudrais quand même rappeler ce matin, c'est que le don de prophétie, comme nous l'avons communément dans nos églises, une personne qui va donner un message. Voilà. Ne pas confondre avec le ministère don. Le ministère don de prophète, soit de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, mais qui étaient conduits ponctuellement par Dieu pour des messages, pour des avertissements, pour des conduites, pour finalement, eh bien, dicter et corriger certaines choses. Et c'était quelque chose dont ils étaient revêtus. Alors vous avez Élie, Élisée, et puis les uns et les autres, hein, naturellement. Mais depuis que la Pentecôte est arrivée, dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Dieu en nous maintenant. Et on n'a pas besoin de prophètes, comme dans l'Ancien Testament, pour nous dicter ce que nous avons à faire. Ne nous méprenons pas, ne nous faisons pas d'illusions. Le Seigneur, et Jésus dira, je vous enverrai le Consolateur, en parlant du Saint-Esprit, il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous. Et aujourd'hui, le don de prophète de l'Ancien Testament, c'est fini. Et je peux vous dire qu'on a assisté quelquefois dans nos églises évangéliques à des hommes, des pasteurs qui se prenaient encore pour les dons de l'Ancien Testament, et ils en ont envoyé quelques-uns dans le mur. Hein. Quelquefois, il faudrait réviser un peu la doctrine chrétienne, hein, et la doctrine évangélique en tous les cas. Parce qu'on rentre dans la vie des gens, on leur dit « tu devais faire ceci, tu devais faire cela ». Ça a été fait pour quelquefois pour marier les gens. « Ah, tu devrais, moi j'ai eu une pensée, c'est avec celui-ci ou avec celle-là. » Je peux vous dire que quand il faut vivre 80 ans avec la même personne, c'est autre chose. C'est pas celui qui donne le conseil qui va faire les choses. Enfin, c'est une petite blague que je fais au passage. Mais non, mais de quoi on s'occupe? Quelquefois on s'est ingéré en disant « tu devrais faire ça » parce que on en a vu. Hein. Je peux vous dire qu'on en a vu. Si je parle comme ça, c'est parce qu'on en a entendu. Hein. Et quelquefois, ça fait pleurer parce qu'on se dit « mais où est Dieu dans cette affaire ?» Alors, il ne faut pas confondre avec le ministère don et le prophète de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament qui sont déjà beaucoup plus rares. C'est une parole inspirée par le Saint-Esprit dans l'instant T, un message pour 3 choses. L'édification, l'exhortation et la consolation. Si le don spirituel aujourd'hui dans le Nouveau Testament amène autre chose, il dicte la vie, il fait ceci ou cela, il est en train de prendre l'emprise sur la vie des autres, ce n'est pas biblique. Écoutez, c'est Paul qui le dit, l'édification, l'exhortation, l'encouragement et la consolation de l'Église. Et il doit être jugé par tous. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne une prophétie, eh bien nous sommes à même de dire et de savoir d'où vient, est-ce que c'est charnel, est-ce que c'est divin ou est-ce que c'est charnel, j'allais pas dire au milieu de nous, hein, malin, non. Mais est-ce que c'est divin ou est-ce que c'est humain? Et c'est à nous de le discerner. Et peut-être d'aller voir la personne en disant, c'est juste à la limite. Hein. Alors bien sûr, on le donne avec notre personnalité, avec notre vocabulaire, mais quelquefois derrière, on le sait, on le sent. Hein. À juger par tous, l'exemple à citer, des dons de prophétie, c'est cet homme qui s'appelait Philippe et qui avait 4 filles qui prophétisaient. Vous connaissez, vous l'avez lu ça dans la Bible. Hein. Formidable, hein, 4 jeunes filles qui prophétisaient. C'est la référence que nous avons. Afin que l'Église en reçoive l'édification. Et ça, c'est important. La diversité des langues. Alors, on va faire aussi le distinguo hein, dans tout ça. Hein. À distinguer le signe initial ou évident du baptême dans le Saint-Esprit. comme nous avons, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, on s'est mis à parler en langue. Il nous est dit qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, et à un moment donné, l'Esprit est passé, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On est d'accord. C'est une expérience audible, et puis elle est visible aussi, hein. Donc c'est pas une imagination. Alors il faut faire la différence entre le signe initial, et puis également ce don du parler en langue qui est exercé en réunion publique dans l'Église, à haute voix, pour et dans une langue inconnue. Parce que moi, quand je parle en langue, je ne sais pas ce que je dis, hein. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est un langage extatique. Et quand bien même je ne sais pas quoi dire dans ma langue maternelle, c'est-à-dire le français pour moi, eh bien, il nous est dit que c'est une langue qui porte nos prières d'une manière parfaite jusqu'au trône de Dieu, dans une langue que je ne connais pas. Et on appelle ça de la glossolalie. Et quand la langue est connue, peut-être y a-t-il un frère qui vient d'un autre pays, quand la langue est connue, ça s'appelle de la xénolalie. Xéno, le peuple, les peuples, voilà. Donc, et que deux ou trois s'expriment, et c'est bien parce qu'on tient la mesure ici, parce que souvent on a été parfois confronté avec 10, 15 parler en langue et tout ça. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les gens qui rentrent, ils se disent, là j'ai dû me tromper de... Ah, oui, oui. J'ai dit, mais ils sont pas français ceux-là, hein. Eh oui, parler en langue. Eh oui. Alors les gens, ils peuvent avoir peur, puis ils vont dire, oh, bah là là, oh, je vais mettre les pieds là, c'est terrible. Il y a que des étrangers ici. Eh, alors qu'on est chez nous, eh. Eh oui, alors, c'est pour l'édification de l'Église, dans la mesure où il est suivi d'une interprétation. Parler en langue, vous avez entendu ce matin. Mais il était suivi d'une interprétation. C'est important. Moyen par excellence aussi de s'édifier soi-même. Moi, quand je suis pas à l'église, je suis chez moi. C'est logique. C'est une vérité de la palisse. Mais chez moi, je peux parler en langue sans déranger personne. Ici, si je parle tout haut, je vais déranger les gens. Ils vont se poser des questions pour ceux qui ne connaissent pas. Mais quand je suis au volant de ma voiture, je peux, moi, quand je vais à Redon, hein, nous on prie en langue dans la voiture, personne ne tourne quand on croise une voiture, ils disent, ils sont bizarres ces gens-là, hein. Parce que les fenêtres sont fermées et tout ça. Non, mais je parle en langue, hein. Parce que il nous est dit également que celui qui parle en langue, eh bien, s'édifie lui-même. Vous voulez être fort, mes frères et sœurs, vous voulez être encouragés dans les moments de tristesse, mais parlez en langue si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, et vous verrez que c'est quelque chose de formidable, vous allez retrouver le souffle et la force. Parce que je voudrais quand même vous dire, hein, quand on prêche, ceux qui prêchent, les pasteurs, heureusement qu'on est rempli du Saint-Esprit. Enfin, croit-on être rempli du Saint-Esprit? Je voudrais être modeste. Mais moi, je peux pas faire une prédication sans m'être préparé, hein. Et quand je ne peux pas dire « Seigneur, Seigneur, tu me bénis », etc. en français, eh ben, je le dis avec cette langue. Et ça me donne justement l'autorité nécessaire pour prêcher. Et vous voulez rendre témoignage? Eh bien, remplissez-vous du Saint-Esprit en parlant langue. Et vous allez voir que ça va changer les choses, hein. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Afin que l'Église en reçoive l'édification, afin que nous puissions savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre dans son Église, mais un Dieu de paix. Et puis, la dernière chose, c'est l'interprétation du parler des langues, l'interprétation des langues. Priez, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous qui parlez en langue dans la communauté, priez pour recevoir l'interprétation. C'est une nécessité pour vous. Parce que c'est bien de donner à parler en langue en disant, mais les autres vont faire le reste. Vous vous mouillez pas. Parce que personne n'a compris ce que vous avez. Mais c'est celui qui va devoir peut-être justement le faire à votre place. C'est pour ça que Paul, c'est gentil. Mais c'est pour ça qu'il dit, mais que celui qui parle en langue puisse prier aussi pour avoir l'interprétation. C'est bien quand un frère ou une sœur donne un parler en langue et qui tout de suite donne. Il a, et c'est tout à fait biblique. Pas de problème. Alors je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'interprétation des langues, c'est une interprétation et non pas une traduction. Nuance, hein. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation qui est sujette finalement à celui qui va donner la parole en langage connu, avec sa personnalité, avec ce qu'il est, son vocabulaire. Mais ce n'est pas une traduction. Il faut faire attention. On n'est pas dans une école où on apprend des langues. Naturellement. Et puis je termine. Ça va quand même? Ouais, c'est dur, hein? Non? Bah, le jour de la Pentecôte, j'allais pas vous parler de Noël ou de Pâques, hein? Bon. Alors. Donc, Marc, chapitre 16. Écoutez bien. Je termine. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est dans Marc chapitre 16, verset 15. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. 1. Témoignage. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Non pas parce que finalement, eh bien là, il se sera fait parce que le baptême sauve. Non, c'est parce que justement, il ne croit pas. Tout simplement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru seront accompagnés de miracles. Donc, ce que nous avons dit. En mon nom, dit Jésus. C'est pas dans le nom de l'église centre évangélique. C'est pas dans le nom de quelque dénomination que ce soit. Mais en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ah oui. Eh oui. Ils saisiront des serpents. Doucement, hein. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une certitude. Ils seront guéris. Ils ne seront pas peut-être guéris, mais ils seront guéris s'il y a la foi. Voici les miracles. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. C'est la position où est le Seigneur aujourd'hui, hein? Ouais, il est au ciel, il règne et il revient bientôt. Alors, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent partout. Nous sommes sur le chemin. Ça fait 2000 ans que nous sommes sur le chemin. Ils s'en allèrent partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Miracles. Don de l'esprit, d'inspiration, de révélation et de puissance. Et le Seigneur travaille encore aujourd'hui au milieu de son peuple, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir. Moi, je considère comme un grand privilège. Après avoir certainement erré dans une recherche de Dieu, dans différentes confessions, à travers... En effet, une appartenance à une certaine église, en ayant rencontré encore d'autres déclinaisons du christianisme, moi je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'as conduit, et je peux dire, non pas le fruit de mes recherches, mais providentiellement, miraculeusement, à être confronté avec un message du plein évangile. Avec le message, en effet, eh bien, Seigneur, de cette Pentecôte, oui, Seigneur, qui donne la plénitude de la présence de Dieu. Ô Seigneur, on ne se considère pas, moi je me considère pas loin d'être parfait, mais je considère particulièrement le privilège qui est le mien, d'avoir grandi, d'avoir vécu, d'avoir exercé, d'avoir pu enseigner, eh bien, ces grandes vérités évangéliques qu'est le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, accompagnés des fruits du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je te demande Seigneur de visiter mes frères et sœurs. Ils ont entendu ta parole, ils ont pris la parole. La nourriture est sur la table maintenant. Eh bien je te demande Père éternel que tu les nourrisses, que tu les exhortes, que tu les consoles pour ceux qui pleurent. Et je te demande Père éternel pour ceux qui sont en recherche, de leur donner de faire l'expérience et de te prier le plus simplement du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Passe dans les rangs maintenant. Visite-nous, Seigneur Jésus. Enseigne-nous ta parole, mais d'une manière pratique. Seigneur, de ne pas savoir les choses d'une manière théologique, mais de les savoir d'une manière pratique et vivante. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus. Et que ton nom soit glorifié et qu'il y ait encore dans les temps qui vont venir sur cette église, sur cette ville, eh bien, un souffle de l'Esprit. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.